Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cinécure. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être invité à assister aux 24e rencontre nationale Art et Essai Répertoire, organisée par l'AFCAE, l'association française de cinéma d'art et essai à Agen, au cinéma Les Montreurs d'Images. Au programme, des visionnages de films restaurés bien sûr, des échanges avec exploitantes et exploitants autour de l'organisation de séances dédiées aux films de répertoire, des discussions à propos des obstacles que l'on peut rencontrer quand on les met en place, et de nombreux comptes rendus sur l'état du cinéma de répertoire, le nombre d'entrées, les aides mises en place, et d'une manière générale, la perception de ce cinéma par le public et la place particulière que celui-ci prend dans les salles obscures. Autant de thématiques que j'ai eu le privilège de pouvoir aborder avec Éric Millot, délégué général du Arras Film Festival et responsable du groupe répertoire au sein de l'AFCAE, avec qui j'ai pu échanger. Cette discussion a été le point d'orgue de deux journées passionnantes et enrichissantes, et je remercie encore une fois l'AFCAE pour leur invitation. Bonne écoute à tous. Bonjour Éric Millot, merci beaucoup de m'accorder de votre temps. Vous êtes responsable du groupe répertoire de l'AFCAE, l'Association française des cinémas art et essai. L'AFCAE, est-ce qu'on peut peut-être éclaircir un peu d'abord ce que c'est, comment ça fonctionne et les missions qu'elle se fixe pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas ?
Alors, c'est quelque chose d'important parce que l'Association française des cinémas art et essai, qui va fêter ses 70 ans cette année, c'est une association ou plutôt un mouvement, même si c'est une association de 1901, un mouvement de salles qui, dans les années 50, ont décidé de s'unir pour défendre une certaine idée du cinéma et notamment les questions de diversité. Et voilà. Aujourd'hui, ça représente vraiment beaucoup de salles, hein, puisque c'est 1250 à peu près, en sachant qu'il y a à peu près 4000 salles en France. Donc, c'est vraiment un nombre important de toutes sortes de cinémas, c'est-à-dire ça va du milieu rural à la ville moyenne, en passant par bien sûr la grande ville, les réseaux aussi qui sont chargés de la diffusion dans les régions. On est tous réunis autour de ça, en sachant que au fur et à mesure, il y a un certain nombre de missions de services publics qui lui ont été confiées, en fait. Et notamment la mise en place du collège de recommandation qui détermine si un film est à arrêter ou ne l'est pas. Tous les films sont soumis au collège de recommandation. Donc le collège de recommandation, c'est 50 personnes qui représentent un peu tous les corps de métier du cinéma. C'est-à-dire, dedans, vous avez des exploitants de cinéma, bien sûr, mais vous avez aussi des distributeurs de films, des critiques, des responsables de festivals. Enfin, voilà, à peu près tous les corps de métier. Et tous les films qui sortent leur sont soumis pour savoir si le film doit être recommandé à arrêter ou pas. Et c'est en fonction du nombre de films recommandés à arrêter que vous passez qui détermine si la salle elle est classée à arrêter ou si elle ne l'est pas. Il y a quelques années, en fait, on recommandait un film une fois qu'il était sorti. Donc on ne savait pas au départ. Voilà, on pouvait aller le voir dans les salles de cinéma et le collège votait seulement à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une recommandation préalable, c'est-à-dire que les films doivent être vus avant leur sortie et les votes se font avant. Donc en principe, un exploitant de cinéma, il connaît, il sait, le programmateur, il sait si le film il est arrêté ou s'il ne l'est pas. Et voilà, et après, il y a un certain nombre de missions encore avec la mise en place des groupes pour soutenir des sorties.
J'allais venir.
Voilà, il y a tout ce travail-là, mais on y reviendra.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et les objectifs du groupe répertoire au sein de l'AFCAE ? C'est-à-dire, combien vous êtes, comment vous répartissez le travail et quel est ce travail ?
Alors, il existe plusieurs groupes au sein de l'AFCAE qui font de l'accompagnement. En fait, il y a un groupe inédit qui s'occupe des films nouveaux, qui est très ancien, c'est le plus ancien. Ensuite, il y a eu la création d'un groupe jeune public. Et autour de l'année 2000-2001, il s'est créé le groupe répertoire patrimoine. À l'époque, c'était patrimoine répertoire, d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'était de mettre en avant quelques films qui sortent ou sont réédités afin de les accompagner, d'inciter les salles de cinéma qui sont adhérentes à programmer les films, de les mettre en valeur. Voilà. Et c'est très, très compliqué pour les films de répertoire parce que on a souvent le haut du panier. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de films qui ressortent en salle. C'est-à-dire, c'est plus de 200-230 films qui sont chaque année réédités dans les salles de cinéma. C'est unique au monde. Il n'y a qu'en France, on voit des choses comme ça.
Ouais.
Où on peut sortir dans une salle de cinéma, y compris une salle commerciale, parce que la diffusion de films de répertoire n'est pas limitée au, film, au cinéma à RSC. Bien sûr.
J'allais y venir, ouais,
on peut le voir aussi dans les grands circuits. Mais nous, on est là pour mettre en valeur des œuvres qui correspondent aussi aux critères de la RSC, c'est-à-dire de faire attention aussi aux questions de diversité. C'est-à-dire qu'on a un certain équilibre à voir. Alors, le groupe, c'est simple, hein, il fonctionne, il se réunit plusieurs fois par an, il voit des films, il les étudie, on discute et détermine si ces films sont soutenus. Ce sont les distributeurs qui nous les soumettent. Après, on fait une espèce de présélection avec les responsables du groupe, le coordinateur font une présélection des films qui vont être étudiés et en fonction de ça, on détermine un certain nombre de soutiens à l'année qui peuvent varier entre 15, une vingtaine aussi, ou 15, 20, ça dépend. Et puis après, on regarde aussi les questions des rétrospectives parce qu'il y en a beaucoup aussi de rétrospectives.
On peut citer la rétrospective Marcel Pagnol de par exemple, Chantal Akerman.
Ça, c'est des rétrospectives qui ont été soutenues effectivement. Auparavant, il y a eu Sacha Guitry, régulièrement comme ça des rétrospectives. Donc outre le soutien des films qui pour nous est important parce que c'est quand on soutient un film, on met en valeur un film, on essaie d'inciter à ce qu'il soit distribué dans les salles. On aide aussi un distributeur, hein, donc il faut aussi qu'on fasse attention à l'équilibre de l'ensemble des distributeurs de films.
Donc là, pour rentrer dans le concret, parce que j'aime bien vulgariser beaucoup pour les gens qui connaissent pas ce milieu-là, quand vous parlez d'aide, par exemple d'aide aux distributeurs, on parle d'aide financière, on parle de soutien.
C'est pas une aide financière, c'est plus une aide, une mise en valeur. Voilà, c'est une mise en valeur d'un film et une incitation à sa programmation. Quand je dis mise en valeur, c'est simplement qu'on a un certain nombre d'outils qui sont mis en place de communication à destination des professionnels qui les informent que ce film est soutenu. Alors aujourd'hui, on peut aller sur la plateforme, le site internet de l'AFCA et voir les films qui sont soutenus. Donc vous avez les films jeunes publics, vous avez les films inédits, puis vous avez les films répertoires.
Tous les groupes dont vous nous avez parlé.
Voilà, les groupes dont on a parlé. Donc on peut visionner, mais nous on fait des newsletters, on a un certain nombre d'informations, on renforce cela au moment de la sortie du film. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en valeur un film. On s'adresse moins au grand public qu'aux professionnels en réalité. Même si on met des outils en place qui peuvent aider les exploitants de cinéma à mieux sortir un film, mieux l'accompagner, parce que tout le monde n'a pas, enfin c'est pas toujours évident en fait, il faut avoir beaucoup de compétences et de connaissances, donc on a mis en place un certain nombre d'outils qui peuvent aider en fait un exploitant qui maîtrise pas, bah, parce qu'il n'est pas spécialiste de cinéma japonais par exemple, ou de cinéma chilien, voilà, qui lui donne des clés. Alors on a mis en place par exemple une fiche d'information qu'on envoie à tous les adhérents et qui donne des éléments clés qui permettent de faire de la communication, voilà, de préparer éventuellement une présentation en salle. Enfin, il y a tous ces éléments là qui sont à mon avis très importants pour aider en fait la sortie de films qui représentent un panel assez large en fait. On a des films à la fois très connus, des grands classiques, mais on essaie aussi de mettre en valeur parfois des films plus rares, des films qui sont inédits, hein, qui sont des films anciens mais qui sont jamais sortis en salle, hein. L'objectif c'est ça, et après on peut mettre en place aussi un certain nombre d'outils qui sont plus pour aider, encore plus aider. On organise des tournées d'intervenants qui accompagnent le film. Bon, après c'est budgétaire donc c'est limité, c'est-à-dire on peut pas en organiser 300, 400 dans une même année, donc on en fait une trentaine, quarantaine, mais pas plus. Mais en tout cas, ça peut, voilà, nous on prend en charge les frais d'un intervenant, un critique ou quelqu'un qui est spécialiste d'une œuvre, et ça, il va à la rencontre des gens, il y a des projections qui sont faites, parfois il y a des tournées qui sont organisées. Tout ça, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on l'a fait par exemple sur la rétrospective Marcel Pagnol, je crois qu'on était à une trentaine ou une quarantaine d'interventions.
Ouais, ok. Pour un total de, je crois, sur les 10 films qui étaient 33 000 entrées, j'ai vu tout à l'heure.
En fait, ça doit être 38 000.
38 000,
parce que c'est toute la particularité des films de répertoire, on donne des chiffres, mais en fait, ils continuent leur activité.
Ouais.
C'est-à-dire, ils ont un temps de vie à l'écran qui est nettement supérieur à celui d'un film nouveau.
Alors, je voulais qu'on parle un petit peu de la place du film de répertoire en salle, parce que quand on parle avec des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un film de répertoire ou qui ne connaissent pas le milieu de l'exploitation, c'est un peu difficile de se faire une idée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement qu'on parle un petit peu de ces chiffres. On a vu ce matin aussi une présentation avec les chiffres du CNC. On voit que le film de répertoire est en train de prendre de plus en plus de place, hein, sur les entrées nationales annuelles. Quel est votre sentiment là-dessus? Comment vous l'interprétez? Comment vous le vivez au sein de l'AFCA et puis vous-même?
cet essor en fait du film classique, il s'est fait il y a déjà un moment, une vingtaine d'années, il a commencé à se bouleverser. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut voir les films de plein de façons. En fait, vous avez plein de choix. En fait, vous avez la salle de cinéma, et ça, c'est une chance inouïe et très très française en fait. Mais vous pouvez voir aussi des films à la télévision, sur des plateformes. Vous pouvez voir des films en DVD, Blu-ray. Voilà. Donc en fait, des films des grands classiques en France, on peut en voir partout. Le tout, c'est d'essayer pour nous à notre niveau de dire, mais un film de cinéma, ça se voit avant tout dans une salle de cinéma. C'est l'occasion de redécouvrir. Et même si vous connaissez le film, vous l'avez vu en DVD par exemple, vous allez voir, le film est différent quand il est projeté sur un grand écran. C'est vraiment un point pour nous qui est essentiel, de maintenir en fait ces films à côté des films nouveaux, parce que c'est souvent le cas. Il y a quelques lieux en France qui sont spécialisés dans le cinéma de répertoire. Bon, bien sûr, on connaît les cinémathèques, mais il y a aussi des salles de cinéma qui fonctionnent comme les montreurs d'images ici à Agen ou comme d'autres lieux, et qui sont spécialisées uniquement dans le film de répertoire. Sabine Putorti, qui travaille avec moi sur le groupe, par exemple, elle est directrice de la Maison de l'Image à Aix. C'est une salle qui est entièrement dédiée au répertoire. Par exemple, à Nantes, il y en a une qui s'appelle le Cinématographe. Moi-même, je me suis occupé pendant 18 ans d'une salle à Lille. Donc il y a des lieux, il y a quelques lieux, mais souvent, en fait, la majorité des cas, c'est de trouver à côté des films nouveaux, des films anciens. Et voir comment on fait exister, en fait, ces films anciens à côté de l'actualité, avec vraiment pour nous l'idée majeure, c'est de montrer ce qui se transmet. C'est-à-dire que c'est ça la grande force de pouvoir avoir ces films. La cinéphilie, finalement, elle se forme aussi comme ça. C'est-à-dire il faut savoir ce qui s'est fait avant pour mieux comprendre les films d'aujourd'hui. C'est vraiment une des idées forces, en fait, chez nous, et notamment auprès des jeunes. C'est-à-dire que c'est important que des jeunes puissent découvrir aussi ces films. Et je pense que la crise du Covid, elle a un peu accéléré, en fait, un mouvement, parce qu'on l'a bien vu quand il y a eu des pénuries de films, et y compris les grands circuits. On a parlé tout à l'heure du GC, mais à ce moment-là, ils se sont mis à faire pas mal de répertoires et ils ont fait beaucoup d'entrées. Voilà, alors quand on regarde les chiffres aujourd'hui, je crois que c'est 4 millions, quelque chose comme 4 millions d'entrées.
Ce qui représente à peu près 2,4%, ouais, voilà, je crois, des entrées, hein, pour vous donner une idée.
C'est pas spectaculaire en fait sur le principe. Ça paraît, ah oui, on pourrait dire, ouais, c'est vraiment une microéconomie. Mais après, il faut savoir que c'est souvent des projections uniques qui ont un taux de remplissage très haut. C'est-à-dire que pour une salle, ça se fait pas sur 18 séances, ça se fait parfois sur une ou deux séances, et que l'événementialisation autour des films, ben tout ça, c'est quand même une donnée importante. Et donc, ce qui fait que ces chiffres paraissent faibles, mais en réalité, ils sont plutôt forts. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient ou qui ne nous comprennent pas, d'ailleurs. Les Américains ne comprennent pas très bien ce qu'on fait avec nos films anciens, même si eux, ils en diffusent, hein, dans les universités, par exemple. Ça existe, hein, il ne faut pas croire. Mais échelle, dans un nombre de salles, parce que... On a parlé tout à l'heure, on dit, voilà, il y a quand même dans l'AFK, sur 1250 salles, il y en a un tiers qui a le label répertoire. Quand même. Quand je dis le label, c'est des salles qui ont une spécialité répertoire. C'est-à-dire qu'ils en font assez suffisamment souvent pour avoir cette spécialité. Parce que dans les 800 autres, et dans ceux qui ne sont pas des salles à RSC, parce qu'il y en a plein quand même en France, ou dans les circuits, ça n'empêche pas que ces salles, elles font aussi du répertoire. Et à cela, il faut ajouter aussi ce qui se fait dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image, par exemple. Et tout ça, c'est l'ensemble qui forme quelque chose qui est important, parce que le plus tôt on découvre des films comme ça, on a envie d'aller plus loin, et la cinéphilie va se créer, se développer comme ça. Et les salles de cinéma ont besoin de cette cinéphilie, enfin des salles à RSC en tout cas.
Justement, je voudrais qu'on revienne là-dessus, parce que vous avez parlé donc de l'attrait que peut avoir le répertoire. On parle des circuits, mais pas uniquement. En discutant avec pas mal d'exploitants, d'exploitantes de cinéma de proximité, on va dire, un argument qui revient souvent, c'est « Ah mais moi, mon public, ça les intéresse pas ». Quand on a ces 2,4 millions là d'entrées, on s'aperçoit bien qu'il y a une demande. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait cette idée reçue là, et comment vous luttez, vous, à l'AFKA, si toutefois vous le faites, hein, contre cette idée reçue, pour dire mais non, en fait, il y a la place pour faire ça?
Alors nous, au niveau de l'AFKA, la grande idée, c'est de donner envie. Nous, notre travail va s'arrêter là, parce qu'après, je veux dire, la salle va se retrouver seule face à son public. Et effectivement, la particularité de ce travail, c'est qu'il est, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que par rapport à un film d'actualité qui bénéficie d'un renfort de communication nationale, voilà, et plus qu'il en a, et plus que ça déclenche des entrées, ou pas d'ailleurs, parce que ça arrive beaucoup de catastrophes hein, quand même, il n'y a pas que des grands succès. En tout cas, il y a vraiment une démarche qui va à l'opposé, en fait. Autant que le film nouveau, il doit faire ses entrées très vite et dans un temps très, très court, en fait. Le bouche à oreille, c'est un peu dépassé, alors, sauf quelques films qui, heureusement, passent dans les réseaux, les circuits RSC. La question, lorsque vous voulez mettre en place un rendez-vous répertoire, il y a quand même des impondérables. Bon, déjà, il ne faut pas se limiter et tirer des conclusions trop vite, c'est-à-dire qu'il faut du temps. Un rendez-vous de ce type, ça s'inscrit dans le temps. Il faut donner confiance au public, il faut l'amener tout doucement, donc il faut de la patience. Et ça, c'est pas quelque chose qui est dans notre société aujourd'hui.
C'est pas actuel, voilà. On est d'accord.
On veut des rentabilités immédiates. Non, le répertoire, c'est un investissement. C'est un investissement sur les gens, sur le public, sur la façon de proposer les choses. Donc, il faut y aller doucement, il faut gagner la confiance petit à petit public. C'est beaucoup de travail pour des résultats parfois pas spectaculaires, qui peuvent devenir spectaculaires, mais ça suppose encore une fois beaucoup d'engagement. Donc, il y a cette crainte aussi de ne pas être à la hauteur, de ne pas être en mesure d'accompagner ces films. Et ça, c'est peut-être un des freins que les gens ne disent pas, en fait. Y a, bien sûr, il y a la question du public, mais on ne peut pas... au contraire, le public dit qu'il est intéressé. Et l'après-crise Covid ou le pendant-crise Covid, on s'est rendu compte qu'il était intéressé. Moi, j'ai fait des belles séances un peu partout, là, dans notre région des Hauts-de-France où je travaille, où, effectivement, je connais aussi ces difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous très anciens qui sont installés et qui continuent à bien fonctionner. On met en place parfois des rendez-vous où il faut trouver le bon tempo, bien connaître le public, y aller doucement, pas trop vite, pas trop...
C'est une éducation, quoi. Voilà. C'est de la pédagogie.
Vous l'avez dit le bon mot. C'est exactement ça. Il faut ce temps, cette pédagogie, un public, ça se forme. Ça aide d'ailleurs à former un public, le répertoire, puisqu'on lui donne des clés pour mieux comprendre les films futurs. Et ça, c'est absolument nécessaire. Et donc, il faut accepter ça. Il faut accepter de se dire « Ah ben oui, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a 20 personnes seulement dans la salle. »
Ouais, c'est ça.
Et après, ça finit par payer, mais il ne faut pas perdre patience.
Il faut avoir confiance en son pouvoir prescripteur, j'imagine.
Oui, alors justement, ça, c'est des éléments importants, ce que vous dites, la prescription. J'y crois beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut donner confiance au spectateur, il faut l'incarner. Je pense que le public, il a besoin de cette prescription parce que, à titre personnel, j'ai grandi avec des prescripteurs. J'ai suivi, en fait, des émissions comme celle de Claude Jean-Philippe ou Patrick Brion, par exemple, à la télévision française, où il y avait des films qu'on appelait les cinémas de minuit, les ciné-clubs. Ça, c'est de la formation. Petit à petit, vous apprenez un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il n'y a plus ces rendez-vous. Donc et je pense surtout aux jeunes, moi. Mais je suis toujours surpris quand même de leur cinéphilie.
Est-ce que vous pensez qu'il n'y a plus ces rendez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont peut-être changé de lieu ou changé de forme ?
Oui, ouais. Ils ont changé de forme. C'est-à-dire que je découvre qu'il y a il y a certains jeunes qui ont une grande connaissance cinéphilique, en fait, et je pense qu'ils sont allés puiser les films autrement. Alors, ils sont allés les voir peut-être sur des plateformes, de façon, je ne vais pas le dire, mais légale ou illégale, voilà, dans d'autres lieux, ils sont allés les chercher autrement. Aujourd'hui, vous avez quasiment accès à tous les films, que ça soit dans les salles de cinéma, sur les plateformes en VOD, sur les DVD. Enfin, on a vraiment beaucoup de chance, en fait. Et donc, vous avez envie de voir un film, vous pouvez accéder. Bon, il y a encore des films qui posent problème, parce qu'il y en a beaucoup. Mais globalement, on est quand même dans une situation où, si on veut, on peut voir.
Et alors, justement, ce pouvoir prescripteur de l'AFCAE, j'ai vu ce matin un peu dans les débats que ça fait partie des choses. Est-ce qu'on est prescripteur, pas prescripteur ? Est-ce que les exploitants et exploitantes suivent les recommandations qu'on leur fait ou pas ? Comment vous abordez cette question-là au sein de l'AFCAE et donc au sein du groupe répertoire ? Qu'est-ce qui nous intéresse ?
C'est difficile pour nous de voir si notre travail est un effet immédiat. C'est pour ça que ce matin, là, par rapport à ce que vous faites référence, on a interrogé aussi à un moment les distributeurs pour savoir si eux, ils voyaient une différence, si le film il est soutenu ou pas soutenu. On se rend compte que sur certains films, ça peut avoir un impact. Comme la programmation n'est pas immédiate, on ne peut pas le mesurer au moment de sa sortie ou de sa réédition. Il faut attendre quelques semaines, sinon quelques mois, pour vérifier si ça a eu un impact. Donc il y a certains distributeurs qui disent que sur certains films, c'est immesurable parce qu'on en a parlé dans les médias, dans les journaux, enfin je sais pas, on en a parlé un peu partout. D'autres disent effectivement que lorsqu'ils se sont rendus compte que ça prenait pas au niveau des médias, ils avaient un impact, on nous l'a dit ce matin, ça finissait par avoir un impact sur le film, parce qu'il y a un côté prescripteur, mais auprès des exploitants, pas des spectateurs. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas se substituer au travail d'une salle de cinéma. Mais par contre, on peut encourager une salle de cinéma à programmer des films. Et on n'est pas, l'AFK n'est pas le seul acteur, d'ailleurs.
Vous êtes un canal supplémentaire, voilà, probablement très important. Comment vous envisagez l'avenir du cinéma de patrimoine dans le contexte qu'on connaît, avec ce que le cinéma de patrimoine nécessite d'accompagnement, notamment comment vous voyez l'avenir au sein de l'AFK, et puis même vous, personnellement?
Je suis assez confiant dans l'avenir. Moi, j'ai constaté à titre personnel un renforcement de la participation, par exemple, d'un public plus jeune. Le public s'est rajeuni. C'est pas que des têtes blanches qui vont voir les films anciens. Donc, j'ai trouvé qu'il y a une curiosité comme ça qui s'installe petit à petit. Il y a eu un basculement avec la crise Covid. Hein. Enfin, les séances d'avant et les séances après, c'était pas la même chose. Il y a un nouveau public qui est sorti, qui semble se rajeunir, s'intéresser. On pousse dans ce sens-là. Alors, il y a tout qui vient dans le sens contraire actuellement pour nous empêcher en fait d'aller dans cette direction. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant en fait, en réalité. Parce qu'on est parti dans une dynamique. Mais les difficultés que rencontrent les collectivités territoriales, les baisses de crédit, les soucis rencontrés aussi par le passeport culture, qui était au départ un peu une aberration. Hein. Moi, j'étais pas très pour, par exemple. J'avais surtout la part collective, la part individuelle, pourquoi pas. Même si je trouve que la part individuelle, elle a jamais été... Tout cet argent, il aurait fallu le mettre dans de la médiation, en fait. Pas dans du consumérisme, parce que finalement, le passe culture, ça bénéficie aux grandes enseignes quand vous regardez les résultats. Même les cinémas, c'est d'abord UGC, c'est d'abord Pathé, tous les grands circuits qui bénéficient en premier du pass culture de la part individuelle. Après, ce qui craint, c'est qu'à un moment, on a fait basculer sur les établissements scolaires la part collective, et c'est difficile aujourd'hui, au moment où on commence à la restreindre, de voir ce qu'on risque, c'est d'avoir de plus de sorties de classe, quoi. Donc la sortie de classe, elle n'est pas à négliger non plus dans la découverte du cinéma. Sur une classe de 30, il y a toujours des gens qui sont touchés, et la cinéphilie, elle se déclenche comme ça. Donc il ne faut pas mettre un terme à ces dispositifs, au contraire, il faut les intensifier, sauf que c'est pas la conjoncture financière ne le permet pas actuellement. Mais il faudrait les intensifier, parce que c'est... je pense qu'on ne montre pas assez de choses à l'école, on n'emmène pas assez les enfants voir des films. Il faut commencer ça très tôt. Alors, toutes les salles, elles mettent en place des actions jeunes publics pour essayer de les sensibiliser très tôt à un autre cinéma, en fait. Et tout ça, ça se construit, et j'ai peur que cette dynamique qui s'est enclenchée dans l'après-Covid soit un peu ralentie par les difficultés financières, parce qu'on l'a dit, il faut beaucoup d'énergie, mais il faut aussi des moyens. On peut y mettre beaucoup d'énergie, mais à un moment, si on n'a pas les moyens humains et donc financiers, je pense que les salles vont s'épuiser et vont plus y arriver.
Comment est-ce que vous envisagez ça, l'importance que ça a pour vous, l'événement autour de la séance, et puis ensuite, est-ce que l'AFKA réfléchit par exemple à des solutions financières ou pas pour l'accompagnement de cette séance? Est-ce que c'est quelque chose qui est, c'est une éventualité qui est étudiée?
Oui, c'est pour ça qu'on a mis en place d'ailleurs les tournées, par exemple, parce qu'on a conscience que pour qu'une bonne séance de film classique soit projetée, il ne faut pas se contenter de le projeter simplement, il faut l'incarner. Après, un événement, on peut, il y a plusieurs différentes formes. La base serait une simple présentation, montrer que c'est une séance différente, dire bonjour aux gens, leur dire voilà, c'est un film de telle année, c'est fait par tel réalisateur. Enfin, c'est des trucs basiques, ça dure 5 minutes et c'est déjà montrer une différence par rapport à un film d'actualité. Après, bien sûr, on peut monter dans des degrés, on pouvait accueillir des intervenants, des spécialistes. Alors, il y a beaucoup d'intervenants sur Paris, c'est vrai qu'il faut les faire venir en région, mais peut-être que chaque salle peut avoir aussi des ressources à proximité. Voilà, je pense que il ne faut pas non plus imaginer que c'est insurmontable, c'est-à-dire que parfois, à deux pas de chez soi, on peut avoir des gens qui ont les compétences et qui veulent s'investir... bénévolement ou pas, mais en tout cas ils veulent s'investir pour accompagner des films. Et après, il y a aussi un tas d'outils qu'on a mis en place, de ressources qui n'ont pas toujours été exploitées par les salles. Par exemple, à une époque, on créait des avant-programmes. C'était en fait 6 minutes, 7 minutes sur un auteur qui vous présentait, bah, je ne sais pas, Louis Malle en 6-7 minutes pour avoir quelques clés comme ça qui pouvaient être projetées avant la séance et qui donnaient comme ça aux spectateurs quelques clés par rapport à un film. Mais ça, on a abandonné parce que les salles s'en emparaient pas. Or, il suffisait de télécharger gratuitement et le DCP était déjà créé. Il n'y avait plus qu'à le mettre avant la séance, en fait. Donc, il y a peut-être une méconnaissance, et c'est sur ça qu'on doit travailler, d'un certain nombre de salles, de tous les outils qu'on peut mettre en place et que nous, on l'offre. Après, il y a aussi d'autres solutions dans l'événementialisation. C'est d'associer, par exemple, son public, pourquoi pas un public jeune, à monter une séance. Enfin, il y a tout un travail de médiation aussi qui peut être fait. Alors, on dit toujours le jeune public par rapport à l'épargne. C'est vrai que le jeune public, beaucoup de salles ont des médiateurs, ont des gens qui sont spécialisés dans la programmation de films pour enfants ou pour jeunes, le travail sur les scolaires. Enfin, voilà. Dans le domaine du répertoire, ça c'est le patrimoine, ça s'est pas fait. Enfin, il y a un manque de moyens. Donc, je pense que faire un événement, c'est pas dépenser des sommes colossales, mais c'est de dire cette séance, elle est un peu différente des autres. En fait.
Une dernière question peut-être sur ces fameux minimum garantis et sur ces coûts parfois que ça peut avoir, qui sont, on parle beaucoup hein, de distributeurs qui vont demander des prix parfois exorbitants. Ça peut être un vrai frein, ça peut être un vrai problème. Est-ce que l'AFCAE étudie une éventualité similaire à celle de la DRC, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'étude ou qui est à tout le moins discuté? Ou alors est-ce que vous dites non, ça c'est vraiment le travail de la DRC qui est un travail à part. Nous, on se contente de pousser d'être un canal supplémentaire par rapport aux films qu'on estime ont besoin de soutien, ont besoin de visibilité.
Alors, on n'a pas ce pouvoir de faire, par exemple, lorsqu'on soutient un film, on n'a pas ce pouvoir de dire au distributeur il y aura zéro minimum garantie. Alors, peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est le minimum garantie pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Le minimum garantie, si vous voulez, lorsque vous louez un film, c'est une somme incompressible qui sera versée au distributeur du film, quelles que soient les entrées qui sont réalisées. C'est-à-dire que le cinéma fonctionne toujours sur le principe de la répartition. Quand vous achetez un billet, ça ne va pas à une seule personne, mais c'est un partage notamment entre l'exploitant de cinéma et le distributeur de film. Dans le cas du minimum garantie, alors ils sont de sommes très variables. Hein.
C'est le cœur du problème. Hein,
c'est le cœur du problème. Ils sont souvent inatteignables, et donc c'est quoi qu'il arrive, vous devrez verser cette somme. Et effectivement, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le répertoire patrimoine ou qui en fait régulièrement mais qui n'a pas un potentiel, c'est un frein. C'est un frein parce que avec 20 billets, vous ne compensez pas cette somme, donc ça devient des séances à perte. Donc on peut être philanthrope, on peut être engagé dans la culture, mais à un moment, il faut trouver un équilibre financier. Et donc, démarrer une action où on sait que ça va être long, compliqué, effectivement, ça peut causer un frein. Après, effectivement, il s'est mis en place l'Agence pour le développement régional du cinéma qui, elle, a ce pouvoir d'agir sur un certain nombre de films. Et le catalogue est important. Hein. Je veux dire, on peut bâtir aisément une programmation sur plusieurs années en se basant sur leur catalogue. Beaucoup de distributeurs travaillent avec eux.
À titre d'information, catalogue ADRC, à ce jour, un peu plus de 1700 films.
Voilà. C'est quand même pas rien.
Ah non, c'est fantastique. Voilà.
Alors, tous les distributeurs font pas des minimums garantis. Hein, mais
non, bien sûr.
Après, il faut pas se voler la face. Hein. Parfois, c'est compliqué. Il y a des salles de cinéma qui font des très petites recettes. Hein. Ça peut être 3 entrées.
Oui, bien sûr.
Ça arrive. Hein. C'est pas... Et je pense que les distributeurs sont inquiets parce qu'eux-mêmes, ils ont des frais et que sortir un film, c'est un coût et que donc, ils sont eux-mêmes à perte.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre entre les deux. Moi, je dirais que celui qui veut se lancer dans le répertoire, sauf les très grandes villes, parce que ça, elles n'ont pas accès, mais elles ont moins ce problème de minimum garantie, parce qu'elles ont quand même un potentiel réservoir public plus important.
Évidemment.
Ils ont tout intérêt à prendre des minimum garanties. Et après, le minimum garantie, ce n'est que pas pour les salles cinéma ARS, hein, c'est pour tout le monde.
Et là, il y a un frein, il y a même un obstacle hein, concret qui est problématique et qu'il faudrait pouvoir régler. Je n'ai pas la solution, bien sûr, parce que ce serait...
La question des minimum garanties, on a quand même fait plusieurs fois des réunions avec les distributeurs de films. pour les sensibiliser justement aux difficultés des salles, pour essayer de leur faire comprendre que les minimums garantis, c'est un frein. Et moi, je trouve que beaucoup ont fait des efforts. Il faut le dire honnêtement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de distributeurs de films qui sont revenus sur cette question des minimums garantis, en plus de la DRC, quoi. C'est donc eux-mêmes, ils n'appliquent plus ce genre de choses. Et donc, on voit qu'on évolue petit à petit, tout doucement.
Bien sûr.
C'est pas rapide, mais c'est tout doucement.
Avant de terminer, je voulais vous poser la question de votre présence ici à Agen. Alors, la vôtre personnelle, bien sûr, mais surtout de l'AFCAE, d'avoir fait ce choix-là. Vous l'avez dit, vous aviez été à Morlaix, puis à Strasbourg, maintenant vous êtes à Agen. Moi, je trouve à titre personnel que c'est une excellente initiative. Ça permet, d'abord, ça permet plus de proximité, ça permet aux gens de ne pas toujours devoir aller à Paris, se retrouver dans un cinéma, le Sempiternel, le cinéma parisien. Ça permet d'aller dans des endroits, de découvrir des lieux comme les Montreurs d'Images, qui est quand même un lieu magnifique. Là, les auditeurs ici ne pourront malheureusement pas en profiter, mais moi, en tout cas, sachez que j'en profite pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à se continuer? Est-ce que l'AFCAE cette volonté de continuer à se déplacer dans ce que je vais appeler les territoires, ou est-ce que oui, pourquoi pas, mais peut-être qu'un retour à Paris, enfin, je ne sais pas du tout comment vous l'envisagez.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'AFCAE n'est pas parisienne. Elle est ici, on est chez nous, en fait. Ouais. Ce qui fait l'AFCAE, c'est les salles de tous les territoires.
Bien sûr.
Donc je trouve que c'est normal qu'on puisse aller comme ça de territoire en territoire. Les rencontres existent depuis longtemps, sur la 24e édition cette année.
Ouais.
Y a eu une année où elles n'ont pas eu lieu, c'était l'année du Covid. Donc c'est quand même un rendez-vous assez ancien, mais pendant longtemps, on a cru que c'était compliqué de sortir de Paris. À chaque fois qu'on a fait des tentatives, c'était plutôt faible. Donc on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. Et après le Covid, on a fait une expérience à La Rochelle dans le cadre du festival. Donc on avait du mal à mesurer. Et il y a eu surtout Morlaix qui était un déclencheur. C'est-à-dire qu'avec l'édition de Morlaix, donc c'était à 3 éditions, on s'est dit que ce rendez-vous, il pouvait vraiment s'inscrire dans un lieu. Il fallait qu'on trouve des lieux qui soient un peu atypiques aussi, qui permettent justement de vivre pendant 3 jours ensemble, de communiquer, voilà. Parce que finalement, Paris, c'était bien, mais déjà, ça coûtait cher pour les gens qui venaient de province.
Bien sûr.
Et puis après, les gens, les Parisiens, ils venaient voir un film, puis après, ils repartaient. Et finalement, il n'y avait pas cet esprit de communion, d'échange, de partage permanent pendant 3 jours, de vivre comme ça, ensemble, de façon à échanger, de discuter, de voir qu'on appartient aussi, qu'on a les mêmes difficultés. Enfin, toutes ces questions-là, elles étaient éclipsées parce que finalement, les gens, ils venaient voir leur film, ils repartaient et ils ne se parlaient pas. Parce que le but de ces rencontres, c'est quand même de discuter. De discuter, de rencontrer des exploitants, de montrer des lieux, effectivement. Je ne sais pas si on va trouver comme ça des lieux aussi géniaux tous les ans, mais en tout cas, si on veut amener de nouvelles personnes aux nouveaux exploitants de cinéma à faire du répertoire patrimoine, il faut aussi aller un peu au-devant des gens. Donc c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire de se rapprocher, ce qui fait qu'aujourd'hui... alors qu'on a cru pendant longtemps qu'on ne pourrait jamais le faire en dehors de Paris, on fait autant de personnes ici à Agen qu'on aurait pu le faire à Paris. Et on fait on accueille des personnes qui sont concernées, c'est-à-dire qui sont vraiment là pendant 3 jours. Et effectivement, il y a des temps organisés. Par exemple, dans le cas des rencontres, on met en place des tables rondes. Enfin, c'est des moments importants pour discuter. Mais après, il y a tous ces temps informels qui vont suivre, où les gens vont continuer le débat, en fait. Ils vont continuer à en discuter, ils vont continuer à en parler. Et il y a peut-être des choses aussi intéressantes qui vont en sortir de manière informelle que dans un cadre formel, en fait.
Merci, Eric Mio, pour votre temps.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis, on se croise, du coup, dans ces fameux temps morts. Et voilà, cet épisode est terminé. S'il vous a plu, je vous encourage, comme toujours, à noter le podcast 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, cela aidera Cinécure à se faire connaître. Cinécure est un podcast vaisseau hyper sans sas dont je tiens une fois de plus à remercier les membres pour leur patience et leur bienveillance. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, voyez plein de films. Ciao !